L'association Fierté Pas-de-Calais organise la première édition d'un salon du livre LGBTQI+, samedi 12 et dimanche 13 avril. On reçoit Chloé, présidente de l'association Fierté Pas-de-Calais, ainsi que Mia et Daniel, référents tous les deux pour ce projet de salon du livre LGBTQI+. Ensemble, on décortique la programmation de cet événement au milieu de deux questions d'actualité. Avant de commencer, on enregistre aujourd'hui l'interview lundi 31 mars. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la visibilité trans. Donc à 18h, il y aura un rassemblement contre la transphobie. Si je dis pas de bêtises, c'est Place du Théâtre.
C'est bien ça.
Est-ce qu'on peut faire un point aussi ensemble? Parce que en ce moment, dû à l'influence étrangère, mais pas que, on voit aussi une montée de l'idéologie anti-LGBT. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu justement
Avec ce qui se passe effectivement aux États-Unis et même ailleurs, on a donc une augmentation parfois des actes de violence envers les personnes LGBT. Et puisqu'on est aujourd'hui en particulier des personnes transgenres, donc c'est assez préoccupant. Mais en même temps, dans la société elle-même, on sent quand même qu'il y a parfois une vague de solidarité lorsqu'on se présente tel que nous sommes. Et lorsque nous sommes entourés, et il y a un certain nombre de personnes qui finalement ne sont pas dérangées. Donc il faut faire la distinction entre, j'allais dire, la population et puis aussi certaines personnalités.
Peut-être on peut aussi parler de l'accès aux soins, au changement d'état civil. Est-ce que aujourd'hui on constate que c'est des démarches qui se simplifient ou est-ce qu'on est toujours avec des délais hyper longs et c'est toujours aussi compliqué?
On est toujours en train de lutter pour ça. Effectivement, il y a des délais. En fait, tout dépend si on décompose de quoi on parle exactement. Mais par exemple, pour la civilité, on a droit à plusieurs mois de délai au minimum. Et c'est vrai que ça n'est pas forcément aussi simple que ça pourrait l'être. Donc on essaye toujours d'être visible et présent justement afin d'avoir une voix et de faire changer les choses pour que ce soit plus simple pour les générations futures.
Effectivement, il y a beaucoup, les délais sont encore très longs. Il y a encore beaucoup de choses encore à faire changer. Mais on a espoir pour les prochaines années qu'il y ait de l'évolution au niveau de l'administration. Donc voilà.
Bon, alors revenons à nos moutons, à ce fameux salon du livre LGBT+. Donc je l'ai dit, des 12 au 13 avril à l'hôtel de Guine. L'objectif, si j'ai bien compris, c'est de donner plus de visibilité à la littérature LGBT, promouvoir en fait la diversité, l'inclusion, ce qui est déjà dans les valeurs de l'association, en offrant aussi cet espace, le temps d'un week-end, en fait, à une meilleure accessibilité aux livres qui sont issus de la culture LGBT.
C'est bien ça. On a envie de promouvoir également les œuvres LGBT, souvent mises de côté dans les salons du livre, de donner la parole à des auteurs qui, sur leur parcours, souvent, ils parlent de leur parcours à travers leurs livres, pour leur donner leur visibilité, souvent malheureusement cachée.
Et si je puis, on voudrait aussi lutter contre les stéréotypes, parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes contre notre communauté, quand on dit LGBT, quelle que soit, j'allais dire, la sous-catégorie, et ce serait intéressant, parce qu'on nous catalogue souvent dans une petite catégorie de romans, ou on va dire de romans graphiques, et tout le monde se dit, ah ben oui, tiens, LGBT, ça veut dire ça, mais en fait, pas du tout. Il y a beaucoup de romans qui sont très profonds, et nous, on a envie aussi d'aider les auteurs à les mettre en avant et à les mettre en valeur et à changer la vision qu'on a de cette littérature.
Mia, Daniel, justement, puisque vous êtes les référents tous les deux, comment est venue l'idée en fait de faire ce salon? Est-ce que ça vient des bouts de café qui sont organisés
ou... Non, l'idée, elle a germé depuis un certain temps. Ça fait plusieurs années que les membres de l'association ont essayé de promouvoir la littérature et le livre LGBT. Et l'occasion, cette année, s'est présentée. Donc, on a saisi cette occasion et de travailler sur ce projet. Donc, on a vu avec la ville d'Arras, déjà pour trouver un lieu qui puisse accueillir ce salon, on nous a proposé l'hôtel de Guine. Ce salon, ça permet de... C'est un événement assez rare en province, on retrouve plus sur Paris, mais très peu en province, notamment dans le nord de la France. Donc, ça sera une première au niveau des Hauts-de-France. Je ne sais même pas si sur l'île, ça s'est déjà organisé, mais d'une manière moins structurée, je pense. Donc, pour rappeler, c'est un événement rare en province qui se tiendra le 12 et le 13 avril à l'hôtel de Guine, au lieu de la culture arageoise. C'est aussi un enjeu majeur de visibilité qui justifie l'organisation de cette première édition et manifestation, car il est important de trouver dans la littérature des choses qui fassent aussi écho à l'importance et rendre la littérature LGBT accessible et visible au plus grand nombre de personnes, et au-delà de la... pas entre guillemets la communauté LGBT+, mais disons pour élargir un peu le panel d'accessibilité. Donc, on va recevoir des auteurs, des autrices de romans gays, lesbiens, bi, trans, des auteurs de thrillers, de fantastiques, de romans, de livres jeunesse, des illustrateurs qui sont présents, ainsi que certaines maisons d'édition, pour découvrir des histoires, des parcours de vie, des projets artistiques pour célébrer la diversité et la richesse de la voix LGBT+, où chaque genre sera représenté. Donc voilà, ce projet de salon littéraire a pour essence de promouvoir la diversité, l'inclusion, tout en faisant rayonner la culture LGBT à travers les mots, l'écrit et l'image. Parce que pour nous, le livre est une fenêtre par laquelle on s'évade et une fenêtre sur le monde.
En plus, enfin, je suis pas sans savoir que vous avez peut-être la plus grande bibliothèque aussi, justement, à l'association, au-dessus de Paris.
Oui, on a, quand on a créé le centre LGBT, on voulait déjà, depuis un certain temps, promouvoir le livre et à travers ce livre, promouvoir la culture LGBT+. Et je me suis rapproché d'une librairie importante à Paris, Les Mots à la Bouche, qui m'ont conseillé pour constituer le fonds actuel de notre bibliothèque. Parce que nous, on aurait pu axer nos choix de livres sur certains bouquins, mais comme ça, on a eu l'expertise de professionnels. Et puis, Les Mots à la Bouche à Paris, c'est une librairie assez connue qui se trouvait jadis dans le Marais, maintenant qui se trouve dans le 11e. Donc, on a travaillé avec eux.
Alors, sur place, tu l'as dit, pendant le salon, des auteurs, des illustrateurs, des autrices, des illustratrices, des exposants aussi, j'imagine, pour qu'on puisse acheter des livres sur place.
Oui.
Donc, il y aura une petite trentaine d'auteurs. Donc, qui sont de tous bords, et certains ne sont même pas originaires des Hauts-de-France, mais la plupart tout de même. Ensuite, on a quelques maisons d'édition, je dirais 7 ou 8 de mémoire, qui vont présenter également leurs ouvrages, bon, évidemment, axés sur le thème, on s'entend. Et on a une illustratrice qui va donc nous présenter ses œuvres. Et il y a aussi des associations alliées, qui sont des associations de la région, qui vont nous présenter leur travail ou bien leur engagement. Et donc, ils auront aussi leur stand et ils vont pouvoir s'exprimer. Et on a, je pense par exemple à une association lilloise qui se présente donc comme une association et qu'on met dans la catégorie exposant. On a deux associations comme ça qui sont là pour promouvoir l'envie de lire plus généralement. Et donc, ils vont également nous expliquer quel est leur travail et leur fonctionnement, etc. C'est pour ça que le terme exposant, finalement, est bien choisi, à mon avis, parce qu'on va sortir un peu des auteurs et des illustrateurs. Voilà, donc je pense que c'est une bonne explication. Tous les exposants vont avoir un stand et ils seront là pendant le week-end. Donc après, il y a toujours la fameuse vente de livres et avec les dédicaces quand on va voir les auteurs, bien sûr. Et à ce moment-là, on peut discuter. Et puisqu'on parle de présenter les auteurs, on a prévu de faire des petites présentations. Donc, on va les organiser de telle sorte que ce ne soit pas trop long pour les différents exposants ou les personnes qui soient présentes, mais que chacun ait, disons, une ou deux minutes pour nous expliquer la nature de son œuvre, de ses romans ou de ses illustrations et donner quelques infos, ce qui est quand même très utile parce que ça permet justement aux auteurs ou aux différents exposants de s'exprimer. Et justement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour nous, c'est un point en plus. On a envie de donner une voix donc à tous ceux qui seront présents.
Pendant ce week-end, Daniel, tu allais y venir tout à l'heure, des tables rondes également.
Oui.
Donc la première, c'est samedi 12 à 15h. La grande question qui va être posée, c'est LGBTI+ et religion, comment concilier les deux. Pourquoi le choix de cette question ?
Parce que ça peut paraître une question aujourd'hui un peu anodine, mais c'est une question quand même qui est primordiale, parce qu'en fin de compte, je veux dire, ça pose dans l'intime de chacun le relier la religion, ou comment l'élévation de l'esprit, avec, je veux dire, une situation, être homosexuel ou pas. Certaines personnes font face à un vrai défi, en fait. L'enseignement religieux traditionnel peut sembler en conflit avec l'orientation sexuelle. Quand on prend, je veux dire, dans la Bible ou autre, on peut être, je veux dire, en conflit, je veux dire, ça peut être quelque chose qu'on ne peut pas résoudre, en fait, irréconciliable. Mais il est important d'examiner l'enseignement religieux de manière critique et de reconnaître les interprétations que chacun puisse faire dans son intime conviction. Il faut savoir que les textes religieux ont été écrits, traduits et modifiés à plusieurs fois. Quand on prend les textes, moi je connais plus les textes bibliques, ça a été traduit. Donc un mot peut changer une interprétation et ça peut être assez compliqué. Et à travers le prisme de l'époque, certaines références, certains codes peuvent aujourd'hui un peu choquer. Mais je veux dire, le principal également aujourd'hui, c'est de garder à l'esprit le texte religieux, mais qui reflète nos valeurs de l'époque d'aujourd'hui, en fait. C'est pas facile à concilier. Il faut prendre un peu de recul avec le texte brut que l'on a. Et ensuite, je veux dire, se mettre en adéquation avec ses propres valeurs que l'on peut trouver, essayer de trouver un équilibre, c'est ça, trouver son équilibre entre religion et orientation sexuelle. Il faut se rappeler que dans de nombreuses religions, et c'est les enseignements centraux qui sont fondamentaux, c'est l'amour, la compassion et le respect d'autrui. Déjà, quand on prend ce triptyque-là, je veux dire, si on fait les choses avec amour, si on aide son prochain, si on aide à travers une association, des choses comme ça, si on respecte la personne, bon, on n'est pas dans un travers, je veux dire, pour être sanctionné. C'est s'épanouir entre les deux identités, religion et, comment je vais dire ça, sexualité, homosexualité. C'est ça. Il faut se recentrer sur l'amour, la compassion, le respect d'autrui. Et à partir de là, je pense qu'on peut trouver son équilibre pour vivre son existence de tous les jours.
L'association Fierté Pas-de-Calais organise un salon du livre LGBTQI+, du 12 au 13 avril à l'Hôtel de Guine à Arras. On en parle avec les deux référents de cet événement, Mia et Daniel, ainsi que Chloé, présidente de l'association. Une seconde table ronde qui aura lieu donc dimanche, cette fois à 14h. On va parler famille et la question c'est la parentalité a-t-elle évolué ?
Voilà, donc c'est comme ça qu'on l'a formulé. Ce sera ce que j'appelle un prisme, ou alors une pièce à deux côtés. C'est-à-dire qu'on va d'abord parler des aspects plus techniques, par exemple justement l'évolution au fil des âges ou des décennies, depuis disons les années 50, par exemple si on parle de PMA, d'adoption, etc. Est-ce que pour les couples LGBT, qu'ils soient homosexuels ou transgenres, est-ce que tout ça a évolué ? Donc c'est déjà un premier point. Et alors un deuxième point qui sera moins technique, mais qui aura aussi sa place, on va parler des émotions, c'est-à-dire les relations dans les familles. Quand on dit la parentalité a-t-elle évolué, oui, par exemple, si vous découvrez que votre enfant est homosexuel ou votre enfant vous dit qu'il veut changer de genre, comment est-ce que ça se passe? Quelles sont les relations? Ou encore, comment peut-on définir le contraste et l'interaction à ce moment-là? Et même dans le sens inverse, on sait qu'il y a des jeunes et leurs parents, la quarantaine, la cinquantaine, ils leur disent ben, finalement je ne suis pas né dans le bon corps, ou alors même si j'étais avec ta mère, moi j'aime les hommes, voilà. Bon, quelque chose comme ça. Et ça aussi, ça pourra être un pilier du débat, d'autant plus que nous sommes de nombreux auteurs et on sait que les auteurs aiment se plonger dans ce genre de questions, les émotions, la complexité des êtres humains. Et donc, j'allais dire, est-ce qu'on est préparé? Oui, mais en tout cas, on a préparé quelque chose qui ira dans ce goût-là.
Prévu aussi pour ce week-end-là un atelier d'écriture, parce que voilà, on va présenter des livres, on va rencontrer des auteurs, des autrices, mais pourquoi pas aussi y prendre part et essayer d'écrire quelque chose. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu comment ça va se passer cet atelier?
Alors, donc c'est Juline, qui est lilloise, je crois, qui va participer à cet atelier avec son association Des ronds dans l'eau. Et donc, on lui a donné une plateforme. Ce sera donc le dimanche à 11h de mémoire. Et elle a dit qu'elle allait accepter jusqu'à une dizaine de personnes. Ensuite, elle fera un petit atelier avec eux pour pas forcément apprendre à écrire, parce que ça fait un peu pompeux de dire les choses comme ça, mais mettre en lumière différents aspects de l'écriture, en plus selon l'angle sous lequel on veut voir les choses. Et donc, plus généralement, elle fait des interventions, j'allais dire, au fil de l'année, sur différents thèmes. Et là, on lui a donc donné ce moyen d'expression. Et c'est de ça dont il s'agit. Après, c'est surtout à elle, bien sûr, qu'il faudrait en parler.
Également aussi un échange avec la Bella. En fait, on a rendez-vous avec elle au studio pour découvrir la préparation d'une drag queen, en fait.
Effectivement, donc on aura la Bella Picantina qui viendra répondre à toutes les questions qu'on se pose souvent sur les drag queens, de la façon de comment se préparer, parce qu'il y a une façon de se préparer pour être en drag queen. Donc elle se préparera le dimanche, donc la transformation du début à la fin, pour montrer les différentes étapes. Et elle sera là aussi durant le samedi également pour répondre aux questions, et également le dimanche.
Alors est-ce que, pour donner la réponse à cette question-là, est-ce que l'atelier d'écriture, la rencontre de dimanche matin avec la Bella sont sur inscription?
Pour l'atelier, je suis sûre que oui, mais pour la Bella?
Pour la Bella, non, ce n'est pas sur inscription.
Ce n'est pas sur inscription. Est-ce que l'accès au salon, aux activités, aux tables rondes, tout est gratuit?
Tout est gratuit et ouvert à tous.
J'ai vu aussi sur l'Instagram de Fierté Pas-de-Calais qu'il y avait un appel aux dons pour financer le salon.
C'est toujours d'actualité, on est preneur de dons afin de promouvoir encore plus le Salon du Livre, de pouvoir donner la visibilité à ces auteurs comme on expliquait. Donc on est preneur, donc vous pouvez toujours participer. Alors, les appels aux dons sont sur la page de Fierté Pas-de-Calais sur Instagram et sur Facebook, via le lien de Hello Asso et vous pouvez faire votre don directement sur la plateforme.
Avant de presque clôturer notre interview, donc une deuxième question d'actualité. On assiste, hein, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, à la montée donc, d'une idéologie anti-LGBT. La figure emblématique en ce moment, c'est les États-Unis et c'est la politique de Donald Trump. Il s'est rapidement attaqué aux droits des personnes LGBT et pas que, hein, et d'ailleurs à tout ce qui incarne pour lui une culture woke, donc le fait d'être conscient des problèmes liés à la justice sociale ou à l'égalité raciale. Et ça se traduit notamment par une disparition de certains livres, des rayonnages des bibliothèques ou encore des écoles. C'est peut-être d'autant plus important aujourd'hui aussi de mettre en avant la culture et la littérature aussi LGBT en France en ce moment.
Oui, c'est important de promouvoir la culture LGBT, surtout en ce moment. Bon, disons, on tombe dans un cycle. Donald Trump est arrivé au pouvoir en janvier, le 21 janvier. Nous, notre salon en avril, ça fait un petit peu écho, je veux dire, à la promotion de la culture LGBT+, et du livre. Donc, d'un côté, on trouve une personne qui veut rayer un peu cette culture dans les États qu'ils soutiennent, dans les bibliothèques, dans les... Oui, qui veut rayer, gommer tout ça. Et puis, nous, de notre côté, c'est de promouvoir le livre, la culture, la sortir un petit peu, entre guillemets, d'un ghetto et de le faire connaître au grand public, pour apporter, je veux dire, des réponses, peut-être à certaines questions, ou des comment savoir ce que c'est que la transidentité, je veux dire. Moi, quand j'étais au début dans l'asso, pour moi, c'était dans les grandes villes. C'était pas quelque chose qu'on pouvait trouver, je veux dire, dans une petite ville comme Arras ou ailleurs. Donc, ça permet de connaître, de savoir, si on gomme tout, soit par conviction politique ou... par inculture, ça pose problème, je veux dire. Chacun a le droit de pouvoir vivre ce qu'il ressent, de vivre ce qu'il est. Donc c'est important de résister un peu à cette culture, je veux dire, qui peut paraître abrupte aujourd'hui et puis qui veut gommer tout ça.
Si on peut ajouter juste un point, justement parce que c'est aujourd'hui, mentionnons quand même le nombre toujours important des suicides des jeunes LGBT, bon, en particulier bien sûr les personnes transgenres qui ne peuvent pas faire la transition et sont donc condamnées dans à la fois un corps et une identité qui n'est pas la leur. Et là, on peut se poser des questions sur ce qui va arriver aux enfants avec tout ce qui a été mis en place par cette administration, avec tout ce qui a été, comme tu disais, gommé, et en plus le programme scolaire qui a été retoqué complètement, puisque maintenant il est interdit de mentionner la communauté LGBT, etc. Et donc il est d'autant plus important de se mobiliser et de faire face, de faire front et de, j'allais dire, d'être fort, bien sûr, comme Daniel nous le disait tout à l'heure, dans la compassion et dans le respect, mais on doit quand même se tenir debout. Et donc, c'est ce que nous faisons avec le salon et aussi avec les manifestations comme celle de ce soir pour cette lutte contre la transphobie. Voilà.
Peut-être comme élément de conclusion, Fierté Pas-de-Calais, ce sont aussi des actions de prévention en milieu scolaire, contre les LGBT-phobies, le sexisme aussi. Tu veux en parler rapidement ou...
Oui, alors on fait des interventions en milieu scolaire, comme tu disais, sur les préventions. Donc on parle aussi de consentement, que malheureusement, souvent, les jeunes ne savent pas encore, n'ont pas la notion du consentement. On parle de LGBT-phobie, on parle de racisme aussi, parce que ça fait partie quand même des grands sujets qui malheureusement perdurent encore en 2025. On fait de la prévention également sur toutes les maladies sexuellement transmissibles.
Entre autres.
Voilà.
C'est aussi des groupes de rencontres pour échanger, un point d'accueil Info Santé, des permanences. Peut-être Mia, toi tu es référente pour le groupe de, c'est quoi, de parole, non, d'échange?
Voilà, c'est la commission pour les personnes transgenres. On se réunit une fois par mois, c'est le troisième samedi de chaque mois, donc au centre, entre 14 et 17 heures. C'est un accueil bienveillant pour apporter du soutien et puis discuter et partager nos expériences et aussi les adresses qu'on a, évidemment, selon l'endroit où on se trouve sur le parcours de transition. Et ensuite, on essaie de mettre les gens à l'aise et puis de faire en sorte qu'ils passent un moment agréable. Et après, s'ils veulent revenir, eh bien, libre à eux, donc.
Pour terminer, où est-ce que je peux retrouver plus d'informations du coup sur le salon qui a bientôt lieu?
Du coup, on peut retrouver des informations donc sur nos réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Instagram et également sur notre site internet.
Merci Chloé, Daniel et Mia d'être passés dans les studios de PFM.
Merci
à toi.
On vous rappelle du coup, le salon du livre LGBTQI+ aura lieu du 12 au 13 avril prochain à l'hôtel de Guignes. Et nous, bah, on se revoit bientôt, si vous voulez, pour peut-être annoncer la Pride 2025 et son programme.
Avec plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
Merci. C'était un entretien avec Chloé, présidente de l'association Fierté Pas-de-Calais, ainsi que Mia et Daniel, tous les deux référents de l'événement dont nous venons de parler. L'association organise en effet la première édition d'un salon LGBTQI+, samedi 12 et dimanche 13 avril à l'hôtel de Guignes, à Arras. Ensemble, on a décortiqué la programmation de l'événement au milieu de quelques questions d'actualité.